des mots pour le dire. Dominique Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Deuxième émission sur le complotisme. La semaine dernière, nous avons beaucoup parlé du coronavirus. Nous en reparlerons probablement dans cette émission et des documentaires comme Hold Up et Maltraité. Aujourd'hui, je vous propose d'entendre en préambule un décryptage de QAnon. Pour ceux qui ne le connaissent pas, décryptage par CBC Canada.
D'abord, il faut savoir que QAnon, c'est une méga conspiration qui est née dans les bas-fonds de l'Internet sur des forums anonymes comme 4chan, 8chan et 8kun. C'est d'abord sur ces sites obscurs qu'ont été publiés les messages cryptiques, les Q-drops, qui sont la base du mouvement. L'auteur de ces messages, celui qu'on appelle Q, serait prétendument un haut placé de l'administration Trump, quoique plusieurs enquêtes indiquent que ce n'est pas le cas. Les missives de Q invitent les lecteurs à faire leurs recherches et les dirigent ensuite vers des idées conspirationnistes, comme la prolifération de pédophiles au sein de l'élite politique et la notion que la COVID aurait été créée en laboratoire. Malgré le fait que Q dit vouloir sauver le monde, là où les personnes qui publient ces messages ont quand même choisi de le faire sur 8kun, un site web reconnu pour ses communautés d'incels, ses manifestes de meurtriers de masse et même ses caches de pornographie juvénile. Sauf que QAnon n'est pas juste resté sur ces sites-là. Il en est sorti pour atteindre un très grand public sur les médias sociaux et se glisse aussi dans la vraie vie. Dans le fond, QAnon, c'est pas nécessairement un groupe organisé où il faut devenir membre en règle. Ceux qui étudient le mouvement disent plutôt que ça ressemble à une religion qui partage son évangile.
Docteur Dominique Demichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors, avez-vous tout compris à ce délicieux accent québécois pour nous faire le point sur le complot des complots actuels QAnon avec un Mr. Q qui serait un haut placé de l'administration américaine?
Quoique certaines enquêtes semblent dire que ce n'est pas vrai, disait le
commentaire. Tout à fait, hein, évidemment, oui. Ouais. Alors nous allons, dans cette deuxième émission sur le complot, essayer de reprendre ce que nous avons dit un petit peu la dernière fois, sur parfois la difficulté de reconnaître un complot, et de continuer sur justement les moyens de résister, les moyens de résister à ces informations qui sont, je vous le rappelle, diffusées principalement sur Internet, mais qui rejoignent aussi la réalité avec, on a vu pour QAnon, des manifestations de gens qui, avec des pancartes, sauvaient nos enfants. Voilà.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que vous avez raison de dire que Internet, comme d'ailleurs la grande majorité des structures ou peut-être des groupes, donnent le meilleur, mais aussi donnent le pire. Et que c'est vrai que souvent, un des arguments des complotistes, c'est dont il faut quand même rappeler qu'ils parlent d'un complot. Il ne faut pas oublier quand même le mot, c'est-à-dire un complot, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre d'un groupe qui se réunit, il y a quelque chose qui est caché et avec une intention et que cette intention est malveillante. Voilà, ça c'est quand même ça qui est quand même l'essentiel. Et souvent, ces gens disent « mais tout est sur Internet ». Et évidemment, en général, les lieux d'information ou les sites Internet sont faits pour qu'on saute d'un site à un autre site et que très souvent, on tourne en rond. Les sources, en fait, se répondent les unes les autres. Chacun cite l'autre source comme ça pour donner une sorte de densité, de crédit à toutes ces informations. Mais ce qui est caractéristique, c'est qu'en général, on ne retrouve pas de validation par des groupes d'experts. Ce qui est important dans les groupes d'experts, c'est qu'il y a une pluralité des regards, il y a une pluralité des paroles, il y a une pluralité des affects, il y a une pluralité des personnalités. Et que cette pluralité, elle est tout à fait essentielle. Je rappelle le philosophe Kant qui disait, en gros, il appelait ça le principe de publicité, et il dit: si tu ne sais pas si ton opinion est bonne, eh bien parle-en à plein de gens autour de toi. Si tu as du mal à en parler, c'est un tout petit peu bizarre. et en tout cas en publiant, c'est-à-dire en faisant de la publicité, dans le sens le rendre public, hein, tes informations, tu vas voir ce qui va ressortir. Et là, probablement, tu auras un apport quant à l'évaluation de ton propos. Voilà, ça c'est tout à fait le mode de fonctionnement des complotistes est tout à fait à l'opposé de ça. C'est-à-dire on reste entre nous et ensuite on expose tout avec quelque chose qui est déjà entièrement ficelé.
Alors je vais me faire l'avocat du diable, docteur Dominique Desmichel, un complotiste vous dirait que ces groupes d'experts font justement partie du complot.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc là c'est un des éléments qui est important, peut-être on pourrait dire un des premiers points, si on a envie de se pencher sur la question, c'est que il faut aller regarder les études. Il faut regarder qui signe en bas, c'est tout à fait essentiel. Évidemment, c'est difficile. Évidemment, les signatures, de temps en temps, on n'y comprend rien. Voilà, il y a le plus souvent quand même des choses qui paraissent un petit peu bizarres. Et puis, lorsque c'est une petite revue du Colorado ou de la Bourgogne de médecine, c'est pas la même chose lorsque c'est une des trois ou quatre plus grandes revues prestigieuses, mettons, de médecine dans le domaine, et puis un domaine que je connais un petit peu moins mal que les autres. Quand c'est de ces grandes revues, il y a des chances qu'il y ait plus de sérieux, ne serait-ce que parce qu'il va y avoir cette pluralité des paroles et cette pluralité des regards aussi, qui est très très important. On en avait parlé lors de l'émission précédente, il y a une réputation à tenir, on a envie d'être sérieux, pour des raisons d'éthique, et puis pour des raisons aussi de crédibilité.
Alors, est-ce qu'un complot doit nécessairement monter jusqu'au sommet du triangle, jusqu'au sommet de la hiérarchie, pour se prouver complot, dans le sens où, effectivement, si avec, comme dit QAnon, toute l'administration américaine est compromise, eh ben on comprend tout à fait que les plus grandes revues scientifiques soient compromises. Est-ce que c'est aussi, forcément, la théorie du complot doit aller jusqu'au sommet de l'État, parce que, selon ces complots, tout est contrôlé?
Voilà, je pense
qu'il ne peut pas y avoir de petits complots, quoi.
Ben non,
c'est forcément un gros complot.
On comprend très très bien l'argumentaire, hein. L'argumentaire, il est absolument irréfutable. C'est-à-dire, si vous pensez que celui-là dit autre chose et différent, eh bien, c'est parce que, voilà, où il a été embobiné. Enfin, on trouve comme ça. Il y a cette bande dessinée qui s'appelle 13, que peut-être vous avez lu, hein, qui parle de ça, et on voit bien que là, ce complot, mais ici, on est dans une sorte de grand roman avec une belle trame narrative, utilise ces mêmes ficelles. Donc, moi, je crois en tout cas vraiment à la rigueur, en tout cas, du travail scientifique. Donc, une revue internationale, une institution qui a plus de 100 ans d'âge, qui ont leur réputation en jeu, eh bien, il vaut mieux aller chercher de l'information ici. Ça, c'est très, très important.
Alors, la première personne envers qui il faut se méfier, c'est peut-être nous-mêmes, de nos émotions, de notre affect.
Ah non, je crois que ça, c'est même l'essentiel, hein. On en avait parlé lors de la dernière émission. À partir du moment où on est inquiet, et en général, quand on va chercher quelque chose, c'est qu'on peut avoir une inquiétude, alors, dans ces cas-là, on a besoin d'avoir une réponse. Et nos affects sont très, très, très importants. Notre cortex préfrontal, il a pour fonction de réguler notre système limbique. Le système limbique, c'est ce qui gère nos émotions, en particulier avec l'amygdale dans le cerveau, pas l'amygdale qu'on a au fond de la gorge. C'est un outil tout à fait indispensable, ça nous a permis de nous défendre, mais on ne peut pas être gouverné par nos passions. Voilà, les passions sont indispensables dans l'existence, la raison est indispensable dans l'existence. On parlait de cette dialectique entre les deux, ce conflit entre notre cortex préfrontal, notre raison, pour faire un petit peu court, et notre système limbique, c'est-à-dire notre système d'émotion, est tout à fait important.
Alors, évidemment, il faut aller voir les études, il faut lire les critiques de toute théorie, mais en sachant que les théories du complot sont déjà des critiques de la critique, donc on lit la critique de la critique de la critique, jusqu'où peut-on aller ?
Je pense qu'en soi, c'est sans fin ce type de choses, parce que en général, les complotistes sont très très doués pour vous dire exactement le contraire. On pourrait très très bien faire une sorte de jeu, vous voyez, qui serait juste une sorte de jeu verbal, où il y en aurait un qui aurait par exemple, on lui demanderait de démontrer de l'utilité d'une petite cuillère sur un terrain de rugby. Et puis l'autre serait chargé de démontrer de l'utilité d'une brosse à dents, je ne sais pas trop quoi, c'est un coiffeur, par exemple. Et on pourrait très bien imaginer que les deux discutent. Et on voit souvent, chez les complotistes, une espèce de jouissance dans ce langage, et où l'argumentaire tient lieu de raison. Voilà. Donc, on utilise l'argument, et puis on reprend. En général, quand même, la rhétorique est toujours la même et elle est souvent basée sur ses émotions et ses affects, comme vous le disiez tout à l'heure.
Alors, se méfier de ses affects, mais aussi connaître, se connaître évidemment, mais aussi connaître les mécanismes cérébraux qui nous font croire ou non à une information.
Oui, ça c'est tout à fait important parce que notre cerveau, il a essentiellement deux grands types d'informations. Il tire l'information de notre expérience, concrète, précise, rigoureuse, répétée. Voilà, je sais que si j'approche ma main du feu, je vais me brûler. Et puis de temps en temps, il utilise une autre connaissance qui est beaucoup plus large, qui est en gros ancrée dans l'inconscient. L'inconscient personnel et l'inconscient collectif, et qu'on appelle au fond l'intuition. Cette intuition, elle a comme caractéristique d'être de temps en temps extrêmement puissante parce qu'elle intègre une quantité de données extrêmement large, et elle a comme autre caractéristique de temps en temps d'être complètement fausse parce qu'elle nous appartient à nous seuls, c'est-à-dire elle est en quelque sorte projectif. Cette inconscience, cette intuition, c'est le lien avec notre inconscient, le disque dur, on pourrait dire, de notre cerveau. Et nous sommes le plus souvent peut porter sur l'analyse d'un dossier parce que de temps en temps on a l'intuition que, et on voit ça très bien par exemple lorsque des scientifiques vont dire, lorsqu'ils font un exposé, ils disent c'est contre-intuitif. Hein, vous avez peut-être entendu ce mot-là, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire intuitivement on se dit, oh bah oui, ça devrait être plutôt être ça. Le bon sens nous dit que. Ça fait partie de nos biais cognitifs qui fait que de temps en temps le bon sens se trompe. Parce que le sens commun ne renvoie pas nécessairement à une réalité. Voilà, plus les personnes d'ailleurs seront intuitives dans leur fonctionnement, plus elles seront sujettes à succomber, j'allais dire, au complot. Donc on voit ça très très bien, hein. Les intuitifs sont souvent des gens qui sont assez fascinants lorsqu'ils ont une intuition pertinente, parce que ils saisissent quelque chose qui est beaucoup plus large que la raison. Mais en même temps, ils sont souvent beaucoup plus influençables. Ça, c'est très très important. Et pour le dire pour chacun de nous, nous avons des domaines particuliers où nous sommes particulièrement intuitifs et donc peu vigilants, parce que ça fonctionne. Et d'autres où on est beaucoup plus vigilant par rapport à nos biais cognitifs, nos erreurs de jugement, et où on fait appel à notre raison. L'idée, c'est de pouvoir tenir toujours un peu ces deux choses-là.
Alors, nous l'avons vu la semaine dernière, cette histoire un peu de scénarisation, et puis qui va dans un sens peut-être un peu dramatique avec l'affect, mais aussi dans le sens où il n'y a pas de hasard. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui tout de suite va parler à celui, au spectateur d'un type de documentaire sur QAnon, ou qui simplement va être face à des arguments complotistes.
Lorsque deux événements extrêmement peu probables surviennent dans un même lieu ou dans un même temps, de manière spontanée, on a envie de les relier. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire, voilà, l'apparition, pour dire quelque chose dans le champ médical, l'apparition d'une malformation dans un département, ça arrive tout le temps. Il y a des malformations qui arrivent à la naissance chez les enfants et dans un bon nombre de cas, on n'en connaît pas la cause. Lorsqu'il y en a deux dans le même département, alors que statistiquement il y en a une par département et par an, lorsqu'il y en a deux dans la même année, c'est problématique. Et quand il y en a trois dans la même année, eh bien évidemment, on a envie de se dire, on va peut-être être plus attentif à rechercher une cause. Et intuitivement, on a envie de se dire, il y a un lien, on va essayer de trouver la cause. Et ça n'est pas un biais cognitif abusif, mais ça peut être une erreur. Parce que simplement, statistiquement, il est tout à fait possible que un événement très peu probable se reproduise à plusieurs exemplaires dans une même unité de lieu ou de temps, c'est-à-dire, mettons, le même mois ou dans le même département. Vous voyez? Donc ça c'est bien bien important. C'est la différence entre le fait qu'il y ait une synchronicité, une coïncidence entre des éléments et une corrélation. Et ça, c'est très très difficile. Et ça fait appel à un savoir scientifique extrêmement rigoureux, qui, là, dépasse largement mes compétences.
Oui. Donc, un appétit pour ces scénarios, j'ai envie de dire, ces corrélations, et puis aussi
Oui.
une certaine paresse intellectuelle qui nous fait vite sauter les arguments pour aller à la conclusion parce
Voilà.
qu'elle va dans un sens qui nous plaît, quoi, qui
Voilà,
nous convient.
ça, voilà. À la fois parce que ça nous évite une lecture approfondie, et on a tous un petit peu la flemme de le faire, Et puis deuxièmement, par rapport à ce qu'on disait la dernière fois, parce que si ça apaise nos angoisses, on est tout à fait prêt à le saisir. Voilà. Ne serait-ce que, voilà, si on découvre par exemple que les choux-fleurs élevés, enfin fabriqués, non, cultivés, pardon, les choux-fleurs cultivés à tel endroit sont la cause d'une augmentation des 10% du nombre de becs de lièvre chez les enfants, eh bien, ça va nous rassurer plutôt que si les scientifiques nous disent, en effet, il y a une augmentation de 10% de plus des becs de lièvre dans tel département depuis un an, on n'en connaît pas la cause. Et du coup, on va arrêter de manger des choux-fleurs. Voilà, et puis c'est plus simple. Et puis, ça fait pas de remous et tout le monde est bien content.
Docteur Dominique Michel, on aime se faire peur? On aime les scénarios dramatiques?
Oui, je crois qu'on aime les scénarios dramatiques. Moi, je dois dire que par rapport à cette bande dessinée que j'ai lue il y a un peu longtemps, je trouvais que le scénario était très bien ficelé. On avait un tout petit peu peur. Il y avait un grand complot, là, voilà, et c'était tout à fait sympathique. Mais dans cette lecture-là, chacun sait qu'on est dans un roman et qu'au fond, on est dans quelque chose qui relève uniquement de la fiction.
Oui, là, malheureusement, c'est dans la vraie vie et ça peut avoir des conséquences très graves.
Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si on aime... c'était quoi votre mot ?
Se faire peur, simplement.
Est-ce qu'on aime se faire peur ? Je ne sais pas si on aime se faire peur. Dans l'expérience que j'en ai, moi, par exemple, dans le travail que je peux faire avec les adolescents qui regardent beaucoup de films d'horreur. Alors, je dois dire que moi, j'en ai jamais regardé. Alors, je ne connais pas très, très bien ça. Peut-être qu'il faut que je m'y mette un tout petit peu. Je pense qu'il n'y a pas une espèce de jouissance majociste, mais qu'il y a plutôt l'idée d'appréhender quelque chose d'un monde qui nous est étranger. Hein. Donc, je pense que aimer se faire peur ne relève pas d'une tendance majociste, mais au contraire d'une tentative de se confronter à des choses qui nous font peur pour avoir moins peur. Voilà, je donne très souvent ce petit exemple un petit peu anecdotique qui est que vous savez quand il y a sur une autoroute, il y a un accident sur la voie de l'autre côté. Alors évidemment, il y a un bouchon aussi, il y a le temps que les secours arrivent, mais sur la voie libre, c'est-à-dire de l'autre côté, le plus souvent, il y a un ralentissement. Et beaucoup de gens de s'interroger en se disant « mais pourquoi tout le monde ralentit devant l'accident ?» Et parfois, cherche un petit peu à regarder ce qui se passe. Et je ne pense pas que ça soit un désir de se faire peur, mais plutôt que c'est lié au fait que la mort étant complètement exclue de notre monde, à chaque fois qu'elle se présente, on est tenté d'aller la voir. Non pas par masochisme, mais parce qu'elle est exclue et qu'on a besoin de se confronter à ces espaces-là. Donc je crois que, en particulier tous les films de catastrophes, par exemple, comme il y en a eu pendant toute une certaine période, ne sont pas là en raison de quelque chose qui serait malsain, mais en raison d'une espèce de peur sociétale peu consciente qu'au fond, l'art met en scène, en particulier le cinéma.
Et dans notre cas du complot, ça permet aussi de rejeter la faute, évidemment, sur le grand méchant, comme vous l'appeliez.
Ouais. Voilà, alors ça rejoint tout à fait nos petites tendances un peu paranoïdes ou paranoïaques. Hein. L'expérience montre que nous avons tous des défenses paranoïdes. Paranoïdes, c'est-à-dire on pense qu'il y a un complot. Si vous, un matin, vous vous levez et puis vous ne trouvez pas vos clés de voiture, s'il n'y a plus de café parce que vous n'avez pas fait attention, si en plus, ce jour-là, il y a une panne générale d'électricité dans tout le quartier, pas que votre maison, mais dans tout le quartier, il pleut des cordes et puis que vous avez, ça n'existe plus maintenant, mais c'était autrefois, vous avez laissé les phares de votre voiture allumés et qu'il n'y a plus de batterie, obligatoirement, vous allez avoir des pensées un peu paranoïdes en disant qu'il y a quelqu'un qui vous en veut. Et puis, l'électricité va revenir, vous allez prendre du thé, la voiture va redémarrer quand même, et puis tout ça va s'échapper. Donc, il y a en effet des modalités de défense par rapport à l'angoisse qui sont de type paranoïde. Donc, à la fois, on redoute et on espère un tout petit peu que ces complots soient un peu vrais.
Alors, nous l'avons vu, les documentaires qui parlent des complots sont souvent très documentés. Ils nous parlent du domaine de la connaissance, mais la croyance, la véritable croyance n'est jamais loin. La croyance peut-être même en quelque chose d'un peu magique, d'un peu surnaturel. On a toujours une tendance aussi. On est ouvert à ça, et heureusement d'ailleurs.
Oui, je crois qu'on reprendra un petit peu après cette articulation entre connaissance et croyance, qui sont les deux modes de relation, il me semble, au monde, et qui, elles me semblent vraiment assez précieuses. Mais la pensée magique, ça fonctionne tous. Hein. Alors, ces petits exemples, c'est si j'arrive à passer avant le feu vert, alors mon fils aura son bac. Voilà, et évidemment, on se moque un peu de nous-mêmes quand on dit ça. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, cette pensée magique, hein, touchons du bois, ou voilà, où on passe pas sous une échelle, hein. Alors, chacun, donc je disais, se moque un tout petit peu, mais au fond, il croit un tout petit peu. Et il y croit non pas parce que le contenu même objectif de la parole aurait du sens, mais parce que le rite lui-même, je ne passe pas sous une échelle, ou je ne fais attention à ceci ou cela, ou je touche du bois, le rite lui-même nous apaise. Donc c'est la fonction apaisante du rite et non pas le contenu. Évidemment, tout le monde sait que toucher du bois, ça n'empêche pas d'avoir des malheurs, hein. Mais le rite a cette fonction-là.
Alors, selon les complots, évidemment, le remède, ça serait de retrouver confiance soit en la politique, soit en la science, soit dans une objectivité d'une enquête journalistique. Prenons la science, parce que, effectivement, les complots actuels parlent beaucoup du coronavirus, du vaccin. Et ça, c'est pas gagné, c'est pas facile, cette confiance en la science. Parce que
Non.
malheureusement, on le sait tous, à la fois la science, à la fois la pharmaceutique, les entreprises pharmaceutiques, à la fois, je dirais même, les politiques de santé publique ont souvent posé problème, voire fait de graves erreurs.
Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Peut-être dans le champ de la santé, qui est un domaine particulièrement sensible. Avec la pandémie, mais même avant, parce que tout le monde sait que tant qu'on a la santé, c'est l'essentiel. Donc c'est un champ qui est très relié à nos émotions, qui est à notre pulsion de vie, c'est tout à fait important. Moi, je crois qu'il faut absolument retrouver confiance en la science, parce que la science, elle a eu ses ombres. On pourrait dire, bien évidemment, que les armes bactériologiques, ça existe, que les bombes atomiques, ça existe, et ça a fait des millions de morts, en particulier au Japon. Donc, les découvertes scientifiques portent de la vie potentiellement, mais peuvent aussi apporter la mort. Mais c'est très, très important de savoir que ce n'est pas la science en elle-même qui porte la mort. C'est l'utilisation de la science. Le fait de découvrir comment marche un atome ne crée pas la bombe atomique. Être capable de créer la bombe atomique ne dit pas qu'on va nécessairement l'utiliser. Voyez? Donc, par exemple, dans un domaine qui va sûrement émerger de plus en plus dans les années qui viennent, qui sont les modifications du patrimoine génétique, c'est-à-dire la modification de nos chromosomes. C'est un domaine qui est extrêmement compliqué, extrêmement sensible. Peut-être une fois, avec un expert, là, à ce moment-là, on pourra passer une émission là-dessus, parce qu'on sait que dans certaines maladies, comme la mucoviscidose, qui est une maladie qui certes a fait, dont le traitement a fait beaucoup de progrès, mais qui est quand même une maladie qui reste extrêmement grave, il y a des tentatives pour modifier les chromosomes et donc l'améliorer. Donc vous voyez, voilà, je crois qu'il faut absolument faire confiance à la science et de se dire que la science en elle-même, elle n'est pas problématique. C'est l'utilisation que l'on fait de la science.
L'utilisation, mais enfin, il y a eu plusieurs scandales de découvertes scientifiques qui ont été invalidées parce qu'on s'est rendu compte que les chiffres étaient truqués des études, et ça, c'est très récent.
Bien sûr,
Et
bien sûr.
on n'est pas du tout à l'abri que ça arrive encore.
Mais ça, c'est pas la science, vous voyez, c'est l'utilisation humaine.
Ah non, je veux dire, là, c'est les scientifiques, les résultats purement scientifiques.
Non, 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 non. Je vais donner un exemple. Il y a un antidépresseur extrêmement connu, dont je ne dirai pas le nom, qui fait partie d'une famille particulière qui s'appelle les inhibiteurs spécifiques de recapture de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, on pourrait dire, à l'inverse de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Et on sait très bien que quand ce médicament est sorti, il a fait un tollé sur la place mondiale, on pourrait dire. On sait depuis peut-être, je ne sais pas exactement, peut-être 5-6 ans, qu'une bonne partie des publications ont été truquées. Voilà. Mais vous voyez là, la science en elle-même, elle n'est pas négative, elle n'est pas prise en défaut, parce que ce médicament-là a une réelle action. Ce qu'on a dit simplement, c'est que ça marchait dans 90% des cas, et on pouvait même se demander pourquoi, au fond, les États ne décidaient pas de mettre ce médicament dans l'eau du robinet pour éviter les gilets jaunes et faire que toutes les populations soient heureuses. Donc, on voit bien que je crois qu'il faut croire à la science, mais il ne faut pas obligatoirement croire à l'utilisation qui est faite de la science. Voilà, donc j'ai bien envie de proposer ça à nos éditeurs. Si, ayez confiance dans la science. Les auditeurs vont peut-être répondre, mais la science sans les scientifiques, ça n'existe pas. Je pense que la grande majorité des scientifiques sont honnêtes et ont une rigueur éthique et une rigueur professionnelle. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand il y a des enjeux financiers derrière, eh bien, ça peut complètement bouleverser les choses. Et il ne s'agit absolument pas d'être naïf par rapport à ça. Il faut être rigoureux et exigeant. Voilà.
Docteur Dominique Michel, dernier point avant de conclure notre émission. Il faut aussi s'interroger sur la genèse d'une croyance complotiste. Alors ça, c'est évidemment, c'est pas forcément facile à faire.
Je vais probablement dire un petit peu quelques clichés et je me sens pas énormément de compétences là-dessus. Je vais donner quelques petits éléments, en tout cas, de réflexion. Il est probable, en tout cas, c'est ce que disent les politologues qui sont plus compétents que moi, que la personnalité de Trump a beaucoup contribué à ça. C'est-à-dire, lui, au fond, il a décidé que la vérité, c'était celle qu'il disait, et qu'il y avait, alors il appelait ça une post-vérité, je ne sais pas très bien d'où vient ce mot de post-vérité, mais en tout cas, lui, c'était sa vérité. Et à partir du moment où on l'assénait, elle avait beau être fausse, au bout d'un certain temps, elle était vraie uniquement parce qu'elle était diffusée par les médias. Voilà, monsieur avait dit que, et donc c'était comme ça. Un petit peu d'acide chlorhydrique pour se nettoyer les intestins du coronavirus, et puis l'affaire est jouée. Donc, ça, c'est le premier élément. La post-vérité en soi, c'est toujours un contenu vide, quasi toujours un contenu vide. Le deuxième élément qui me paraît plus en profondeur, c'est probablement la perte du sentiment religieux. Non pas que le sentiment religieux n'ait pas des ombres, au contraire. Je pense que quand on va reparler de ce triptyque que j'appelle, moi, connaissance, croyance et religion, on va voir un petit peu que c'est un petit peu compliqué, mais parce que le religieux, c'est une tentative d'explication du monde, pleine d'erreurs, d'erreurs qu'on connaît bien, que ce soit Galilée, Giordano Bruno, qui a été brûlé à cause de ça. Pendant très longtemps, l'Église a été hostile au vaccin, par exemple, pas par stupidité, mais juste par ignorance. Hein. Voilà, plein de gens comme ça. Mais la religion, en tout cas, proposait une explication du monde. Et la perte de ce sentiment religieux nous met dans une sorte de vacuité, de vide et donc d'angoisse existentielle qui est, pour certaines personnes, extrêmement, extrêmement terrible. Et ces gens-là peuvent se réunir parce qu'il est beaucoup plus pratique, beaucoup plus confortable de croire en quelque chose de faux que d'être dans l'incertitude. On l'a dit plusieurs fois, mais ça, je crois que c'est très, très important. Dernier point, ou deux derniers points encore, je crois que l'angoisse collective augmente en relation justement à cette perte de sens. Pas que la perte du sens religieux, mais par exemple la perte du sens de la vie, la perte du sens de l'histoire. Au fond, que ce soit la lecture marxiste ou une autre type de lecture de l'histoire, donner une perspective. Pendant très longtemps, on a cru que le progrès à lui seul donnait du sens. On s'est aperçu que ça donnait essentiellement des objets et que les objets, ça peut donner du plaisir, mais ça ne donne pas de bonheur. Donc cette angoisse, je pense, dans le monde, elle augmente au fur et à mesure, d'ailleurs, que l'ignorance disparaît. Hein. La connaissance, c'est une épreuve, c'est toujours une épreuve. Et dernier point, la modalité de réaction à l'angoisse, c'est la tendance obsessionnelle de notre organisation du monde où de plus en plus tout est protocolisé, noté, enregistré, suivi, tracé, voilà. Donc, pour dire qu'il me semble que, pour conclure, que l'émergence des complots et des théories complotistes, c'est une réaction de type obsessionnel à l'angoisse du monde et à la perte de sens.
Docteur Dominique Demichel, un grand merci, puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Merci Simon, au revoir.